échec et mat. Si vous êtes fan de ce jeu, vous connaissez la formule et surtout ce sentiment de délectation que l'on peut connaître quand, après avoir conçu et bien anticipé une attaque, vous parvenez à immobiliser le roi de votre adversaire. Il ne peut plus bouger. Quoi qu'il fasse, vous le mettez en danger. Charmat, comme on dit en persan, le roi est mort. Eh bien, le mot échec, que l'on utilise parfois à l'école ou dans certaines circonstances de vie, vient de là, du persan, de cette situation où vous réalisez que le jeu est terminé, que vous avez irrémédiablement perdu pied et que vous êtes battu. Alors cette émission d'Avis d'Esprit n'est pas destinée aux fans des échiquiers, mais plutôt à ceux et celles qui veulent réfléchir au charmat, à l'échec dans des situations du quotidien. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue.
À vue d'esprit, Michel Cocher.
Pierre-Yves Brand, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue et en même temps professeur de psychologie de la religion à l'Université de Lausanne. Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Michel.
C'est vous qui nous proposez cette série toute cette semaine. Nous donnons la parole à des croyants qui nous parlent de leur regard sur les échecs de la vie, échecs qu'ils ont connus, qu'ils ont traversés.
Oui, et aujourd'hui on aimerait aborder avec vous, Pierre-Yves Brand, la question des échecs dans la vie spirituelle. Alors, lorsqu'on a la foi, est-ce qu'à votre sens, on peut connaître l'échec dans sa vie de foi, dans sa vie religieuse?
Bien sûr, échec par rapport à ce que l'on a attendu, par rapport à ce que cette foi avait investi. Je crois que, à part des tout nouveaux convertis qui sont encore pleins d'enthousiasme, celui qui dit avoir été croyant depuis un certain temps sera en mesure de raconter des moments où les choses ne se sont pas passées comme il l'avait attendu, comme il l'avait cru.
Et s'il y avait des situations concrètes à mentionner, quelles seraient-elles, ces situations d'échec?
Alors on évoque bien sûr les prières non exaucées. Galton, déjà au XIXe siècle, avait fait une enquête statistique pour savoir si la prière était efficace. Et au fond, il essayait de prouver statistiquement...
Donc c'était un psychologue de la religion ou un
sociologue?
Oui,
c'était un des fondateurs de la statistique, on peut dire.
Hein.
Et lui, il avait... baser son étude sur le fait de savoir si les gens qui étaient des ecclésiastiques vivaient plus longtemps que les autres, supposant que ces gens-là que ces gens-là devaient prier pour une longue vie, et donc au fond on pourrait vérifier l'efficacité de la prière, voilà. Donc
les résultats des cours, pas juste
non
quand même.
Oh ben non, ils montraient qu'effectivement ils vivaient assez longtemps, mais que d'autres gens qui n'étaient pas dans ces disciplines et qui étaient des universitaires ou des gens un peu tranquilles dans leur vie de tous les jours vivaient tout aussi longtemps, même plus. Voilà. Donc, mais effectivement, c'est toute la question. Le contre-pied de la personne qui dit j'ai prié pour tel ou tel événement, il a fait beau, ou j'ai prié et j'ai été guéri. Et alors, ça pose évidemment le problème inverse. Donc, si on prie, ça devrait être exaucé. Et si un jour ça n'était pas exaucé, comment est-ce que je vais pouvoir le vivre? Est-ce que je suis un mauvais croyant? Ou est-ce que ma représentation de ce que veut dire une prière, de qui est Dieu, doit être modifiée?
Alors là, on vient de voir une situation toute concrète, la prière non exaucée. Est-ce qu'il y aurait d'autres situations dans lesquelles le croyant pourrait se révéler en situation d'échec?
Bien, il y a peut-être aussi des attentes par rapport à des projets. Je pense que très souvent, quand des croyants vous parlent de leur déception, de leur désillusion, il peut arriver qu'il vous raconte des situations où, par rapport à la vie communautaire, la vie ecclésiale, ils ont vécu des déceptions par rapport à telle manière dont on n'a pas accueilli leur projet dans une paroisse, par rapport à la manière dont tel ou tel responsable, pasteur ou prêtre, au fond les a déçus parce que tout à coup il s'est montré indigne à leur avis de ce qu'il aurait dû être, ou bien des gens qui sont sortis de communautés religieuses ou d'ordres religieux parce que au fond ça n'a pas bien fonctionné, ils se sont sentis exclus ou pas à leur place, pourtant ils avaient cru être appelés par Dieu.
Dans ces cas-là, on n'emploie pas tant le terme d'échec, parce que on emploie d'autres termes, non?
Qu'est-ce que vous auriez...
L'échec, est-ce que c'est pas personnel? Puis on se dit finalement c'est la faute aux autres. J'ai pas réussi, mais au fond c'est pas ma faute parce que tel prêtre ou tel pasteur était pas à la hauteur.
Ah bon, oui, mais si la personne, au fond, a décidé de s'engager, Elle s'est engagée plus fortement dans, moi je sais pas, dans le catéchisme, ou elle s'est engagée dans le conseil de paroisse, ou elle s'est engagée dans tel ou tel projet. Elle a investi beaucoup parce qu'elle a cru que c'était effectivement ce qu'elle avait à faire au nom de sa foi, soit par conviction intime, soit par appel des autres. Et puis au bout du compte, au fond, elle n'en retire que du dénigrement, de la déception ou de l'exclusion. Elle va être atteinte au fond dans ses convictions.
Donc là, on a la dimension communautaire. Est-ce que par rapport à une trajectoire individuelle, vous-même qui accompagnez de temps en temps des aumôniers, est-ce que certains croyants se révèlent aussi goûtés à l'échec lorsque, par exemple, ils traversent une épreuve, une maladie ?
Alors il y a aussi effectivement toutes les situations où la personne va être confrontée à une grave maladie, un chômage inattendu, une entreprise, un responsable d'entreprise qui a travaillé de manière tout à fait sérieuse, a placé son projet devant Dieu et puis au fond échoue. Son entreprise fait faillite et il se dit « pourquoi moi ?» Parce que quelque part peut-être il avait l'idée que Dieu
si Dieu était dans le bateau, quelque part
Dieu
la réussite serait à l'ordre du jour.
C'est ça, Oui tout à fait. Il peut y avoir une certaine forme de spiritualité qui pense que Dieu bénit les projets, les entreprises de ceux qui sont ses élus. Et alors, les entreprises florissantes sont la preuve d'être un bon croyant, et les entreprises qui font faillite, la preuve que l'on a été un pécheur. Il faut se mettre en question.
Alors là, concrètement, comment est-ce que, selon vous, lorsque des croyants connaissent justement cette dynamique d'échec, comment sont-ils amenés à gérer les choses, à quelque part dire finalement ce en quoi j'ai cru, ça ne vaut rien? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres possibilités de recadrer peut-être certaines perspectives?
Alors je crois qu'effectivement dans ces situations, c'est la déception et la désillusion qui est extrêmement douloureuse. Parce qu'il y a un hiatus entre une attente et puis une expérience. On pensait être à l'abri de certaines douleurs, de certaines souffrances, et puis on se rend compte au fond qu'on est capable d'être victime, comme tout un chacun, des aléas de la vie. Et dans ce cas-là, diverses réactions sont possibles. Il peut y avoir des réactions extrêmement violentes, d'agressivité contre les autres ou contre soi, c'est-à-dire de rejet complet de la foi à laquelle on avait adhéré, ou d'auto-accusations extrêmement grandes qui peuvent aller jusqu'au fait de se prendre la vie, comme un chef d'entreprise, qu'il soit croyant ou non, peut tout à coup, face à la faillite de son entreprise, se considérer tellement comme incapable qu'il attend à ses jours. Ou bien, et alors il va y avoir un profond remaniement des représentations que l'on a de ce que c'est la foi, de qui est Dieu, des convictions profondes auxquelles on veut adhérer, avec un passage difficile peut-être de remaniement de ces...
Un passage par un deuil.
Oui, on peut comparer ça à un travail de deuil, effectivement, qui peut s'accompagner soit d'un changement de système de référence, quelqu'un qui change de groupe d'appartenance, qui quitte tel environnement religieux pour en rejoindre un autre, ou alors qui vit ce profond bouleversement à l'intérieur d'un environnement qui permet de le contenir.
Bon, il vous arrive, en tant que psychologue et prof de théologie, d'accompagner des aumôniers, qui sont eux-mêmes en fait les spécialistes des accompagnements en temps de crise. Alors, la parole, l'expression orale personnelle, c'est un peu un outil privilégié pour aborder l'échec puis y cheminer ?
Ben, la parole, c'est un moyen de mettre en mots ce que l'on a vécu, qui la déroule dans le temps. Qui déroule ce que l'on a vécu dans le temps, qui ont fait une histoire, qui ont fait un récit. Et je crois que dans tout échec, il y a l'expérience d'une rupture, d'une brisure, d'une continuité qui est interrompue, avec la menace de ne pas pouvoir trouver une cohérence dans le fil de sa vie. Et dans ce sens-là, la parole, parce qu'elle met en contact avec le travail de récit, tente de construire une continuité au travers des discontinuités, d'essayer de mettre bout à bout les deux versants d'une brisure pour les intégrer dans un tout où l'on puisse mettre en évidence un fil rouge, une cohésion plus profonde que la discontinuité qui s'est manifestée à un certain niveau, dont on va estimer qu'il est plus en surface, qu'on n'était pas allé suffisamment en profondeur.
Et là, les aumôniers vont chercher à stimuler cela, vous-même qui travaillez un peu en lien avec eux. Vous avez l'impression qu'ils encouragent, ils favorisent cette prise de parole qui permet quelque part de se raconter et peut-être au fil du temps de se repositionner dans le récit et d'évoluer aussi dans la confection de ce récit.
Alors l'aumônier, c'est l'aumônier d'hôpital ou c'est l'aumônier de prison. C'est d'abord quelqu'un qui va écouter, qui devrait être là pour écouter. Donc pour donner une place à une prise de parole par celui qui souffre. La prise de parole, c'est un travail actif. C'est-à-dire, si la personne qui est en face de moi accepte de raconter quelque chose, de ne pas rester dans un mutisme, de ne pas rester prostré, mais d'essayer de me transmettre quelque chose de ce qu'elle est en train de vivre, alors elle va prendre en main son histoire, prendre en main son destin, prendre en main son passé. Pour essayer de le construire, de lui donner une certaine forme. Et cette prise en charge active mobilise la personne et l'aide à faire quelque chose de ce qui lui arrive, de sortir d'une passivité où elle ne serait que victime et en train de subir. Et je crois que dans un premier temps, l'aumônier doit être plutôt silencieux et plutôt... Un réceptacle pour dans lequel on peut déposer des morceaux qui sont pas forcément encore bien articulés les uns avec les autres, qui apparaissent comme des fragments un peu désorganisés, qu'il faudra patiemment essayer de tisser les uns avec les autres pour redonner une texture, hein, comme un vêtement déchiré qu'on essaye de réorganiser, de raccommoder pour que l'on puisse retrouver au fond une identité cohésive.
Et là, cette prise de parole en lien avec un échec, elle est fondamentale pour arriver à le dépasser, déjà dans un premier temps peut-être à le gérer tout simplement.
Moi, je crois qu'elle est fondamentale. C'est pas pour rien, je crois, que nous disons, que nous racontons notre histoire et que histoire veut dire quelque chose que l'on raconte. C'est ce travail, au fond, qui prend en charge le fait que nous sommes continuellement en train de changer. Au fond, d'une certaine manière, c'est Paul Ricoeur a beaucoup travaillé cela à travers la notion d'identité narrative. Nous sommes tout le temps en train de nous modifier. Et donc, si nous sommes tout le temps en train de nous modifier, qu'est-ce qui fait que je reste encore moi-même ? Alors, nous pouvons ne pas nous apercevoir de ces changements continuels, parce qu'ils sont imperceptibles. Et c'est au moment de certaines ruptures, au moment où on se casse le nez sur quelque chose, que tout à coup, de manière plus brutale, nous sommes obligés de constater que nous ne sommes pas immuables, mais que nous passons par des transformations qui sont continuellement en train de menacer la continuité de ce que nous sommes. Et dans ce sens-là, à ces moments-là, tout particulièrement, nous avons besoin de nous reprendre, de nous ressaisir, d'essayer de retrouver une vision plus globale et elle se fait par un récit qui va retisser ce que je suis maintenant en lien avec d'où je viens et où je vais.
Et dans ce contexte-là, si on est croyant, il peut y avoir l'apparition d'une parole qui vienne d'ailleurs, il peut y avoir la possibilité d'insérer dans son propre récit de crise, d'échec, un élément qui tout à coup modifie la donne et ouvre à autre chose.
Alors, une parole, effectivement, tout à coup, mais ça, on peut en faire l'expérience quand on parle avec quelqu'un, et tout à coup, un mot est éclairant, parce qu'il a mis... c'était le mot juste pour parler de quelque chose que j'ai ressenti ou que j'ai vécu, mais aussi une tradition religieuse n'est pas seulement un véhicule de paroles comme ça qui peuvent être révélatrices, mais aussi transporte des récits. Des récits qui racontent des transformations, qui racontent l'histoire de personnages qui ont vécu eux-mêmes des changements, qui ont été confrontés à des difficultés et qui les ont traversées. Et donc, peuvent offrir à la possibilité à un croyant de s'identifier à cette transformation et de chercher, au fond, à calquer son propre devenir sur un récit de référence.
C'est ce qui ferait un peu la différence entre le travail d'un psychologue et d'un aumônier, c'est-à-dire qu'il vous confronte à un moment, bien sûr volontairement et librement, à des récits de la Bible en l'occurrence, ou d'autres textes spirituels, qui vous renvoient une image, qui vous font travailler autrement que simplement face à un psychologue où il vous écoute, puis au fond on ne vous dit pas grand-chose d'habitude.
Alors en tout cas, je pense que l'aumônier est là au nom d'une certaine tradition qui porte des valeurs et des repères. Ce qu'il va devoir faire dans un environnement public, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'il a en commun avec la personne qu'il a en face de soi. Mais si il est en face de quelqu'un qui partage des références à une même tradition religieuse, au fond, pour les rappeler, pour les offrir, pour les proposer. La personne ensuite en fait ce qu'elle veut.
Et là, concrètement, il y a une histoire que vous affectionnez et qui revient de temps en temps sous votre plume. C'est celle du prophète Élie. Alors, en quoi cette histoire-là est-elle quelque part porteuse de sens par rapport à quelqu'un qui connaîtrait un échec ?
Ah ben, l'histoire d'Élie, elle est formidable parce qu'elle parle justement d'un échec et d'un échec traversé. Parce que l'histoire d'Élie...
En deux mots, vous pourriez juste nous
expliquer. Oui, ben, l'histoire d'Élie, c'est l'histoire de quelqu'un qui pense avoir fait tout juste, c'est-à-dire il est appelé pour dire un certain nombre de choses, pour rappeler un certain nombre de valeurs, pour contester un certain nombre de dérapages. Hein. Il a une parole courageuse et il a des actes qui sont même assez violents. Hein. Et puis, au fond, ce qu'il retire de tout cela, c'est qu'on veut le mettre à mort et qu'il est obligé de s'enfuir pour sauver sa peau. Et au fond, il a l'impression que il est mal récompensé de tout ce qu'il a tenté de faire pour la bonne cause, on pourrait dire. Et dans une situation comme ça, je crois qu'il se trouve dans la situation dans laquelle beaucoup de gens peuvent se trouver au moment d'un échec, c'est dire que ça ne vaut plus la peine. Au fond, tout cet échec, je le reporte contre moi et je n'ai plus l'agressivité est reportée contre soi, donc je n'ai plus qu'envie que de mourir. Hein. Et au fond, on raconte qu'il veut se laisser mourir. Il part dans le désert, et puis il se couche sous un arbre, puis il veut attendre de mourir. Et là, il fait l'expérience, qu'un envoyé est là. On dit des oiseaux, ou des corbeaux, mais le corbeau, le terme qui est traduit par corbeau dans la langue d'origine, ça pourrait aussi vouloir dire un messager. Donc voilà, il y a une présence qui au fond le nourrit et qui lui dit que le travail n'est pas fini et qu'il faut qu'il aille encore plus loin. Il faut qu'il s'enfonce encore plus loin dans cette direction, dans le désert. Et on dit qu'il va jusqu'à la montagne de Dieu. Et ce qui est tout à fait fascinant dans cette histoire, c'est qu'il va dans une grotte, il va dans une caverne. Au fond, il y a un travail régressif de quelqu'un qui fait une dépression et qui retourne jusque dans une matrice, hein, comme s'il retournait en arrière dans le plus régressivement possible dans la terre-mère, si vous voulez. Hein. Et puis, c'est une impasse, parce que quand vous êtes au bout de votre grotte, il y a un mur en face de vous, puis c'est sens unique. Hein. Et puis voilà, il attend de mourir. Et c'est dans cette situation-là qu'il est interpellé par Dieu. Il entend la voix de Dieu qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Et il raconte qu'il s'est battu pour Dieu et puis que ça ne lui a servi à rien. Il ne bouge pas. Et ce qui est fascinant dans le texte, c'est que on nous raconte que Dieu se manifeste par un tremblement, par un vent violent, par un feu, et on nous dit chaque fois Dieu n'était pas dans tous ces événements. Puis ensuite, il y a un souffle léger, mais un murmure. Et je le compare volontiers, vous savez, à ce que peut avoir vécu, ce que peut vivre quelqu'un de si bienfaisant quand il a été gravement malade et qu'il a dû subir des interventions chirurgicales très fortes et puis qu'il vient de se réveiller, il supporte plus un bruit, il faut pas crier, il faut pas rien de brusque. Et c'est juste une toute petite caresse sur la joue qui est supportable, le reste c'est encore trop fort. Hein. Et alors il sort au devant de la caverne et là Dieu lui pose les mêmes questions qu'avant et il donne les mêmes réponses qu'avant. Il n'y a rien qu'à changer, rien. Sauf le fait qu'avant il était au fond de la caverne,
puis là, il en est
et maintenant il s'est remis à être actif, il s'est remobilisé, il est prêt au fond à entendre une autre parole qui va l'envoyer ailleurs.
Alors en quoi cette histoire apporte-t-elle quelque chose à quelqu'un qui connaîtrait un échec?
Elle dit que de déprimer, d'avoir envie de mourir, ça fait partie du trajet. On ne peut pas le court-circuiter. Quand vous avez vécu un échec, il faut que vous puissiez aller jusqu'au bout de ces sentiments-là. Et que c'est seulement en allant jusqu'au bout de ces sentiments que vous pourrez dire tout ce que ça vous a fait, que vous pourrez peut-être ensuite trouver un au-delà de ça. C'est la même histoire que l'histoire de Job, si on veut, qui crie sa souffrance et qui trouve injuste tout ce qui lui arrive et qui n'aura pas de réponse sur les causes, mais qui c'est seulement après avoir dit et crié toute sa souffrance va pouvoir être prêt à entendre une autre parole qui insère les choses dans un contexte plus large, qui lui dit il y a ce que tu as vécu, mais il n'y a pas que ça.
La radio suisse romande Espace 2. Nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Yves Brun, professeur de théologie à l'université de Lausanne, et en même temps psychologue. Pierre-Yves Brun, on aimerait vous poser une question plus personnelle. Au fond, vous avez vous-même traversé un échec dans votre vie spirituelle. Enfin, sans doute, est-ce que vous pouvez en parler? Parce que ce sera encore autre chose. Une chose est de le vivre, autre chose est d'accepter d'en parler publiquement.
Oui, alors, j'ai vécu un certain moment assez jeune, un divorce. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Enfin, je crois qu'aujourd'hui encore, je peux dire d'une certaine manière, c'est un échec. Pour ma part, dans ma propre existence, c'est une souffrance. Il y a quelque chose, j'avais un projet qui ne s'est pas réalisé comme je pouvais l'espérer. Et je crois que toute ma vie, je chercherai comment je peux donner une cohésion d'ensemble à ce que j'avais cherché à vivre. Et je crois que c'est jamais facile d'être confronté à ses propres limites. De se rendre compte qu'on a cru qu'on était capable de certaines choses dont on n'était pas capable. Et qu'on l'a fait en toute bonne intention, et puis qu'au fond on n'est pas fier de soi, de la manière dont on a géré cette confrontation à ses limites. Donc ça je l'ai vécu. Et bon, pour moi c'est en travail, ça sera en travail toute ma vie, je crois.
Donc un travail où vous êtes amené quelque part à re-raconter constamment la blessure qui est là et qui demeurera toujours dans votre vie?
Peut-être pas dans ce sens-là, mais plutôt que par rapport à d'autres projets que je pourrais faire, par rapport à d'autres engagements que je pourrais avoir, je ne peux plus ignorer la manière dont je me suis engagé une première fois et au fond les limites auxquelles j'ai été confronté, et que l'engagement que je peux prendre aujourd'hui dans un secteur ou dans un autre, je le ferai peut-être avec un peu moins de gloriole, c'est comme une espèce de repère sur mon humanité profonde, sur la confiance que je veux donner à moi-même et aux autres, hein, et à Dieu. Et en même temps de savoir au fond que tout ne dépend pas des bons sentiments que je pourrais avoir au départ, qu'il y a une remise qui doit être plus humble peut-être d'une certaine manière. Ça me ramène dans chaque entreprise qui va être la mienne, à
une perception de la précarité des choses.
C'est ça. Et de l'assumer, d'accepter que c'est ainsi et que c'est à travers cette précarité-là que d'autres chemins peuvent se dessiner, des chemins qui vont tout de même apporter de la vie, tout de même qu'il n'y avait pas qu'un seul projet possible. Que je ne suis pas fini parce que j'ai raté ce que j'avais cru vouloir réussir.
Et là, dans votre perception de Dieu, les choses ont changé, vous avez été amené quelque part à modifier, vous parliez tout à l'heure d'élargir votre perception. Vous diriez qu'en tant que croyant, cette expérience d'échec vous a conduit à cela ?
Elle a changé, qu'est-ce qu'il faut dire ? Elle a changé, elle a rendu palpable des choses que j'aurais pu énoncer jusque-là de manière théorique. Enfin, ça m'a donné une autre idée de ce que veut dire la grâce, de ce que veut dire la patience de Dieu, de ce que veut dire le fait qu'il est toujours en train de créer du nouveau avec ce que l'on a fait, que les choses ne sont pas déterminées une fois pour toutes. Je ne peux pas me dire que tout était organisé d'avance. Mais je dois me dire, il y a un chemin qui se cherche en marchant. Et c'est ça la vie, et c'est ça la vie spirituelle. Dans ce sens-là, oui.
Donc beaucoup de modestie, somme toute, par rapport à parfois des perspectives qui seraient plus carrées, plus triomphantes.
Oui, je crois que ça met les choses au niveau d'une expérience, ça met les choses au niveau d'une incarnation. Et dans ce sens-là, je crois que c'est. Je regarde les choses de manière un petit peu plus lucide et juste.
C'est une question qui me brûle la langue, c'est celle de Dieu et de l'échec, au fond. En une minute, on n'aura pas la possibilité d'aller bien loin, mais est-ce que Dieu peut être en échec aussi, lui-même ?
Disons, pour un chrétien, la croix, c'est l'échec assumé de Dieu. C'est Dieu qui accepte de ne pas pouvoir plus que ce que peut l'amour. Et donc il ne va pas imposer son amour à quelqu'un qui ne veut pas le recevoir. Il y a toute une réflexion sur le Père crucifié, enfin Dieu qui souffre et pas simplement une espèce d'être immuable à distance qui regarderait les choses sans être concerné, mais qui se rend solidaire. Enfin ça, je crois que c'est pour moi un fondement du message chrétien. Dieu n'est pas celui qui gère tout à distance en tirant des ficelles, mais au contraire celui qui est prêt à aller jusqu'à être rejeté par l'être humain. Et pour moi, une phrase qui est un moteur dans ma spiritualité, c'est la question de Jésus qui dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc ça veut bien dire que Dieu prend le risque qu'il ne la retrouve pas.
Ça, c'est une perspective spécifiquement chrétienne que vous proposez là.
Tout à fait.
Avec la figure du Christ qui souffre et qui meurt.
C'est clair qu'au moment où vous me posez la question de Dieu qui assume l'échec, c'est le Dieu du chrétien auquel je fais référence.
Merci Pierre-Yves Brand d'avoir participé à cette émission. Merci Serge Carrel aussi. Émission sur les échecs dans la vie spirituelle. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie de la religion à l'Université de Lausanne. Demain, bien, nous poursuivons cette série, Serge Carrel, demain.
Oui, donc une série intitulée « Regard croyant sur les échecs » en nous penchant sur les échecs dans la gestion de la vie quotidienne. Alors nous parlerons du burn-out avec une psychiatre, Christina Ayerly.
Alors le burn-out, tiens, on a une forme d'échec contemporaine. Merci Serge, on vous retrouve donc demain 16h30 pour une nouvelle édition de ce magazine. Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre série de cette semaine, informations bibliographiques ou téléchargement de l'émission, n'hésitez pas à visiter notre site religion.rsr.ch ou alors téléphonez-nous au 021 318 60 70 à ce numéro. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et remarques, mais aussi commander l'enregistrement sur CD de cette émission ou de la série. Merci à Philippe Hamilton qui était en régie, Serge Carrel et Michel Cocher avaient le plaisir de vous accompagner pendant cette demi-heure sur la radio Suisse romande Espace 2. Bonne fin d'après-midi à l'écoute de cette chaîne et à demain. Au revoir.